Concret, on m'avait donné comme mission de présenter les origines de l'industrialisme et son déploiement à l'époque contemporaine, ce qui est évidemment, et en même temps les contestations, résistances que ça a pu susciter. Donc c'est évidemment un programme très large que je ne vais pas pouvoir relever totalement. Donc j'aimerais juste revenir sur quelques points qui ont déjà été plus ou moins évoqués. D'abord, la construction du consensus industrialiste. Moi, j'aime bien cette expression parce qu'on a parlé hier, de toutes les logiques qui contribuent à construire l'acceptation, parce que ce qui nous domine, ce qui caractérise notre époque, c'est malgré tout la persistance de cet imaginaire intellectuel de l'industrialisme qui nous empêche de penser d'autres trajectoires, d'autres alternatives que Alain Gras a évoqué en rappelant que ces alternatives étaient toujours omniprésentes en réalité. Ce qui empêchait, c'était notre capacité à les penser ou à faire preuve d'assez d'audace pour oser aller dans ces directions. Vous, évidemment, vous êtes tous extrêmement audacieux dans votre approche de la question, mais l'ensemble de la société reste persuadée qu'il n'y a pas de salut au-delà de l'industrialisme. Donc il est important à cet égard de comprendre comment s'est construit ce consensus provisoire. Mais j'aimerais montrer que ce consensus a été particulièrement fort et s'est construit parce que précisément, il n'allait pas de soi. Et que, en fait, ce qui dominait au début de l'industrialisme, c'était l'étonnement, la terreur, l'effroi, l'inquiétude omniprésente dans des groupes très différents. Donc si le consensus a été d'autant plus fort, puissant, c'est qu'il a dû affronter en fait des discours critiques et des résistances considérables qui ont en partie été rendues invisibles par le grand récit téléologique de la modernité technique. Et les historiens sont responsables en partie d'avoir réifié ce discours sur la technique. Et Alain Gras critique systématiquement les historiens comme étant les responsables en fait de notre malheur parmi d'autres. Mais il y a les ingénieurs et les historiens qui contribuent à construire l'imaginaire, le discours d'accompagnement finalement de ces pratiques de dépossession technique. Bon, là je m'éloigne déjà. Bon, l'industrialisme, donc si, alors je crois qu'on peut distinguer la chose, le mot et la chose. On a beaucoup parlé de la chose et la chose peut trouver de multiples origines, de multiples. On a parlé du néolithique, on a parlé de la révolution scientifique du XVIIe siècle, on a parlé de la Renaissance. Oui, d'un certain point de vue, ce qu'on appelle l'industrialisme contemporain est le résultat de. Mais alors, le risque là, c'est de retomber dans l'écriture linéaire d'un passé qui aurait comme seule finalité d'aboutir à notre présent. Donc c'est toujours le danger avec ces reconstructions linéaires de longue durée, c'est-à-dire de penser que dès le néolithique, tout était destiné à ce qu'on arrive finalement à notre situation contemporaine. Donc je ne reviendrai pas sur la chose. Il y a des racines religieuses, des racines. Le capitalisme marchand précède le capitalisme industriel, mais crée les conditions de possibilité de l'avènement du capitalisme industriel. Bon, donc il y a de multiples racines, traditions qui vont se cristalliser à un moment. Je crois que l'industrialisme, c'est précisément, donc c'est, si on veut donner une définition minimale, c'est une idéologie qui se met en place, c'est-à-dire un ensemble de discours articulés qui se met en place à un moment de rencontre entre ces différents processus qui s'articulent à un moment et qui vont donner naissance à l'industrialisme, c'est-à-dire à un discours d'ensemble qui fait tenir ensemble, qui fait tenir tous ces éléments épars, dispersés, éclatés. Donc l'industrialisme, c'est ça. C'est d'abord un mode de pensée, un discours, une idéologie, appelons ça comme on veut, qui va se cristalliser à un moment très spécifique, très singulier. Donc il faut comprendre ce moment. Ce moment, c'est le moment, en effet, post-révolutionnaire et post-napoléonien. Pour donner, pour essayer d'être concret et précis, on a évoqué le cas de Saint-Simon. Saint-Simon est un personnage intéressant parce que c'est lui qui va forger le néologisme industrialisme, qui va forger ce néologisme. Il y a un moment, le mot est inventé. Le mot industrie existe sous l'Ancien Régime, il existe. Mais sous l'Ancien Régime, au XVIIe, XVIIIe siècle, le terme industrie recouvre un ensemble de significations beaucoup plus large. L'industrie, c'est le fait de posséder des savoir-faire, de posséder un ensemble de capacités pour agir. C'est un sens très flou, très large. On peut parler de l'industrie pour désigner des activités qui ne relèvent pas du monde productif. Ce qui va donc à l'intérieur de ces arts de faire, il existe l'artisanat. L'artisanat, c'est ce qui, dans l'industrie, participe du travail productif, de l'acte de produire des biens matériels. Le déplacement de la signification du mot industrie vers la seule production matérielle s'opère précisément à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle. Et le néologisme industrialisme va être l'aboutissement de ce processus et finalement une tentative de systématiser intellectuellement cette primauté nouvelle accordée à l'acte productif dans l'ensemble des sphères de la vie sociale et culturelle. Donc c'est Saint-Simon qui formule le néologisme industrialisme dans les années 1820, et notamment dans un ouvrage qui s'appelle « Le catéchisme des industriels ». Le catéchisme des industriels. Donc Saint-Simon, ce qui est un aristocrate de l'Ancien Régime, qui va donner naissance progressivement au premier mouvement socialiste dans l'histoire du socialisme français. Et en fait, ses disciples qui vont donner naissance au premier mouvement socialiste, on va les appeler les Saint-Simoniens. Les Saint-Simoniens sont ceux qui vont vulgariser, étendre et construire le discours industrialiste sur la base des écrits de Saint-Simon et donner naissance à ce qu'on va appeler la religion saint-simonienne. Ce qui est tout à fait fascinant quand on lit ces textes autour des années 1830, c'est que l'industrialisme se vend dans le cadre d'un langage religieux, très nettement. Pour Saint-Simon, il écrivait « Le paradis est devant nous, il est terrestre ». L'industrialisme est une manière de séculariser aussi les croyances collectives en acceptant l'idée que le salut ne viendrait pas de la religion, mais le salut viendrait de nos propres capacités de transformer la nature, de transformer le monde et de nous l'approprier pour pouvoir faire advenir une société d'abondance, de bonheur collectif. C'est-à-dire que cette utopie, elle est au cœur de l'industrialisme. Et pour comprendre la force, la prégnance de cet imaginaire, il faut bien comprendre qu'il est porté par une dimension utopique. C'est-à-dire que l'industrialisme, c'est la solution à ce qui travaille toutes les sociétés humaines, c'est-à-dire comment faire advenir une société bienheureuse. Et l'industrialisme, dans le langage de Saint-Simon, devait être la manière... Donc il y a une dimension utopique très forte. Alors c'est la raison pour laquelle, là, je suis très rapide, mais c'est la raison pour laquelle une grande partie des courants socialistes donc, qui vont proposer de faire advenir une société plus égalitaire, une société dans laquelle les hiérarchies seront abolies, repose sur l'industrialisme. C'est-à-dire que c'est par l'industrie que devra se faire la lutte contre les inégalités. Bon. Et donc le communisme va naître de cette matrice-là. Et c'est pour ça que le communisme est industrialiste. Bon, donc là, je m'étends. Alors ce que je voulais souligner, c'est que... Bon, je ne m'étends pas plus là-dessus, mais c'est... Je pourrais en parler pendant des heures. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce langage industrialiste qui trouve sa racine là va être rapidement repris par de très nombreux acteurs. Il va être pris en charge dans de multiples sphères, dans de multiples groupes. Alors, on ne va pas tous les lister, mais on va voir émerger un industrialisme catholique, un industrialisme... Il ne faut pas oublier que les évêques... on dit toujours que le catholicisme, la religion, a été un facteur de critique traditionnaliste de l'industrialisme, mais non. La hiérarchie catholique au XIXe siècle a accompagné le déploiement de l'industrialisme et il l'a légitimé auprès des classes populaires qui restaient très religieuses. Les évêques bénissaient systématiquement les inaugurations de gares et de chemins de fer. Pas systématiquement, il y a quelques contre-exemples, mais... Donc il y a un discours industrialiste catholique, il va y avoir un discours industrialiste libéral. Dès les années 30, l'économie politique libérale devient industrialiste. L'économie politique libérale, Adam Smith et les théoriciens utilitaristes britanniques antérieurs n'étaient pas industrialistes dans leur esprit. C'est-à-dire que le marché, le doux commerce, devait être une manière de permettre aux gens de se rencontrer, d'échanger, mais dans une logique finalement très pacifiste. Et la production n'était pas du tout au cœur de ce projet intellectuel du premier libéralisme. Le libéralisme devient industrialiste à partir des années 1830. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce mot d'ordre va être pris en charge par de très nombreux acteurs, en premier lieu donc l'État, évidemment. L'État va être l'un des véhicules de cette construction du consensus industrialiste par de multiples canaux, par l'éducation et la pédagogie. C'est-à-dire que la pédagogie industrialiste naît, là aussi, dans ce même moment historique des années 1830, avec la multiplication des écoles d'ingénieurs, des formes nouvelles d'organisation de la formation parallèle à la disparition de l'ancien apprentissage, c'est-à-dire qu'on met en place de nouvelles formes éducatives, de nouvelles pratiques éducatives qui vont contribuer à diffuser dans le corps social cet industrialisme. Les industriels eux-mêmes vont évidemment s'emparer de ce mot d'ordre parce que c'est le meilleur instrument pour dépasser toutes les critiques qui leur sont adressées. Les industriels, au début du XIXe siècle, sont des gens vus avec méfiance. Ce sont des gens qui se sont accusés d'introduire de la perturbation dans le fonctionnement et la cohésion des formes d'organisation sociale qui pouvaient exister. L'industriel, c'est celui qui rompt précisément avec les cadres sociaux qui doivent mettre en place, qui doivent gérer les limites. Donc les industriels vont prendre en charge ce mot d'ordre industrialiste pour en faire l'utopie du monde qu'ils veulent faire advenir. Un exemple très amusant, par exemple, en 1838, la société industrielle de Mulhouse, qui est un groupe patronal très... Il n'y a pas de syndicat patronaux à l'époque, mais une sorte de lobby patronal alsacien. Les industriels mulhousiens sont les principaux promoteurs de l'industrialisme. En 1838, cette société industrielle de Mulhouse, par exemple, lance un concours en vue de récompenser, je cite, le meilleur mémoire traitant de l'industrialisme dans ses rapports avec la société sous le point de vue moral. L'objectif, qui est explicite dans le texte, dans l'annonce du concours, c'est il faut montrer comment l'industrialisme peut devenir une source de moralisation, comment il faut répondre à ceux qui considèrent l'industrialisme comme une source de démoralisation sociale, en prouvant au contraire que l'industrie apporte l'aisance et le bonheur. C'est explicite dans le texte du concours. Donc l'objectif de ces concours, c'était de créer de l'émulation. Bon, il y a une multitude d'exemples de ce type, et là on n'est qu'au début, et bien on pourrait suivre jusqu'à nos jours les logiques de construction de ces discours, de ce consensus industrialiste. Alors, je vais peut-être... J'ai commencé avec... Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que... Donc il y a eu un travail... C'est pas une sorte de logique qui serait passée naturellement, les foules sont conquis par ce thème du paradis terrestre par l'industrie. Ça a été le résultat d'un processus de construction consciente, explicite, de la part de multiples acteurs dans la société. Mais précisément cette construction, et ce petit concours de la société industrielle de Mulhouse, a été nécessaire parce que ce qui dominait, c'était l'incrédulité, l'inquiétude, la méfiance par rapport à ces nouveaux projets. Donc ça peut nous amener à faire une transition vers ce qui va nous occuper cet après-midi sur la sortie de l'industrialisme. Donc je vais pas vous faire une typologie des stratégies de sortie de l'industrialisme, mais peut-être une petite typologie des stratégies développées pour ne pas y entrer. D'une manière ou d'une autre, ça peut nous donner des pistes sur les fausses solutions pour en sortir. En tout cas, est-ce qu'on peut élaborer une sorte de panorama des différentes stratégies ou solutions ou tactiques développées par les gens ordinaires pour ne pas rentrer dans cet industrialisme qui devient le grand projet du 19e siècle. Alors on peut distinguer plein de types de stratégies. Je commencerai par, qui correspondent à des groupes sociaux, je commencerai sûrement par les stratégies développées par les classes populaires eux-mêmes, par ces artisans dont on parle tout le temps, qui sont les victimes de l'industrialisme, et qui sont ces artisans, qui est ce peuple, qui sont ces ouvriers, parce que, en réalité, le terme d'ouvrier est lui-même un produit de l'industrialisme. C'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, il n'y a pas d'ouvriers. Il y a des gens qui travaillent dans des mondes qui n'ont rien à voir. Quel rapport entre un imprimeur et un tisserand à domicile ? Ben, il n'y en a pas. Alors, a posteriori, on va dire que ce sont tous des ouvriers, mais cette notion n'existe pas. L'ouvrier va être inventé par l'industrialisme. C'est-à-dire l'idée qu'il existerait un peuple unique qui serait mis au service de la machine industrielle et qu'on va appeler l'ouvrier. Mais ça, c'est un processus de simplification du réel. Donc ce qu'il faut, c'est retrouver la diversité des mondes sociaux. Mais c'est compliqué parce que ça nous mène dans un univers très éloigné, très, très étrange pour nous, parce que c'est ces univers sociaux pré-industrialistes, qui sont eux-mêmes très complexes. Donc en fait, quand on parle du peuple, il faut être méfiant parce que le peuple est très divers. Et les stratégies pour ne pas rentrer dans l'industrialisme qu'il a pu développer sont eux-mêmes très différents. Alors, on pourrait dire qu'il y a autant de stratégies pour ne pas rentrer dans l'industrialisme qu'il y a de groupes populaires, puisque chacun, en fonction des situations, des types de travail qu'il faisait, des types de rapports sociaux dans lesquels il était inscrit, a développé des stratégies différentes qui sont très intéressantes. Alors, l'un des premiers, par exemple, je ne vais pas vous faire toute la liste, parce qu'on pourrait y passer des jours, mais une des premières stratégies pour ne pas rentrer dans l'industrialisme développée par les classes populaires, c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est une sorte de tentative de ne pas participer, une sorte... Par exemple, le turnover. Le turnover est l'un des grands problèmes de la première industrialisation. Comment fixer la main-d'œuvre dans l'usine ? Puisque les travailleurs cherchent en permanence à sortir de l'usine ou cherchent en permanence à réintroduire à l'intérieur de l'usine des modes d'organisation du travail qui étaient pré-industriels. C'est connu, les usines, les premières grandes usines de filature actionnées avec les machines à vapeur, qui étaient les symboles de la modernité industrielle du premier 19e siècle. Mais le gros problème, c'est que les ouvriers, là-dedans, ils passaient leur temps, la famille venait pour manger le midi, ils partaient au milieu de la journée pour aller boire et discuter au cabaret, ils réintroduisaient dans le cadre de l'usine des formes de sociabilité qui étaient complètement inassimilables avec la logique industrielle du contrôle, de la rentabilisation du temps par le contrôle rendu possible par la machine. Donc l'un des grands travaux des industriels, ça a été de fixer cette main-d'œuvre, d'imposer... ce qu'on va appeler l'usine, qui s'invente en fait très lentement. L'usine est un... Donc ça, c'est une stratégie, vous voyez, de non-collaboration par le maintien de pratiques. Il y a la Saint-Lundi, il y a toute une série de pratiques qui relèvent de ce genre, je crois, de résistance à l'industrialisme. Après, de multiples groupes ont développé des stratégies. Les plus célèbres, que je n'évoquerai pas vraiment, c'est les fameux ludites, qui sont devenus les symboles de cette résistance populaire à l'industrialisme. Mais c'est finalement la face émergée de l'iceberg, puisque ce sont ceux qui ont recouru à la violence pour des raisons très particulières. Donc les ludites sont ces ouvriers anglais, le 1811-1812, dont on célèbre l'anniversaire, puisque les émeutes ont commencé en novembre 1811, qui ont détruit les machines, en tout cas certaines machines dans l'industrie britannique. Bon, mais ces violences qu'on trouve ailleurs qu'en Angleterre, en fait, et ces violences ne sont que l'élément spectaculaire d'une résistance beaucoup plus diffuse. Alors deux autres exemples de résistance qui sont, en fait, omniprésentes au XIXe siècle. Par exemple, le fait... alors, prenons des exemples concrets, les mineurs. Les mineurs ont... il n'y a pas le mineur au XIXe siècle, lui aussi s'invente très progressivement. Le mineur, au départ, c'est un paysan. Les mineurs sont des paysans. D'ailleurs, les premières mines sont souvent installées dans des zones agricoles, et la main-d'œuvre qui va être utilisée pour travailler dans les mines, c'est les paysans alentour. Donc, le gros problème, c'est que ces paysans alentours, qui restent totalement imprégnés dans des univers socioculturels au milieu de l'industrialisme, vont tout faire pour ne pas rentrer dans la machine industrialiste des mines. Et le gros problème des industriels miniers au XIXe siècle, c'est de faire en sorte qu'il y ait des ouvriers toute l'année, puisque dès qu'il y a des moissons, dès qu'il y a les beaux jours qui arrivent, les mineurs désertent les mines pour aller à la campagne travailler, faire les moissons, etc. Et donc, pour les mineurs, le travail industriel n'est rien de plus qu'une manière de meubler les temps morts du travail agricole. Et donc ça, c'est évidemment un gros problème, parce que là, il y a un conflit sur les significations qu'on donne au temps. Alors, l'industrialisme va imposer une nouvelle vision du temps qui était contradictoire avec les formes de temporalité propres au monde rural pré-industriel. On pourrait évoquer le cas des tisserands, qui est un cas très intéressant, parce que ça a été le symbole de ces bienfaits de l'industrialisme. Les paysans, les tisserands, ceux qui tissaient les tissus de laine ou de coton à domicile, qui ont été présentés comme le symbole d'une misère sociale gigantesque et des bienfaits qu'apportait l'arrivée de l'usine. Mais en fait, les tisserands, c'est quoi? C'était des travailleurs à domicile qui tissaient le soir pendant la veillée ou dans les temps morts du travail agricole pour avoir des compléments de revenus. D'ailleurs, on a démontré que si les paysans se sont mis à faire de l'industrie, c'est ça, ce que les historiens appellent la proto-industrialisation, je ne rentre pas dans les détails, mais... En fait, la proto-industrialisation, c'est le fait que l'accumulation du capital ne s'est pas fait par l'innovation technique et la machine, mais c'est fait d'abord par une intensification du travail traditionnel, artisanal, dans un cadre rural. C'est-à-dire qu'on a mis au travail les paysans, parce que notamment, il y avait une augmentation des loyers, donc les paysans ont dû trouver des ressources monétaires, et donc ils se sont mis à travailler, à faire de l'industrie. Et pour eux, ce travail industriel, c'était en fait une sorte de complément pour avoir un peu d'argent, mais ils en faisaient le moins possible, ils en faisaient juste assez pour pouvoir... Or, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'arrivée de l'usine, il y a eu un abaissement considérable du prix des produits textiles. Et donc, les tisserands avaient soit comme alternative, soit d'aller travailler dans l'usine, soit de continuer à travailler à domicile dans le cadre proto-industriel, mais en intensifiant leur travail. Or, ce qu'on observe, c'est que la majorité ont fait le choix d'intensifier le travail à domicile. C'est-à-dire d'essayer de négocier ce passage à l'industrialisme en maintenant leur forme d'organisation du travail. Je suis un peu technique, là. Ça va, vous n'en remets pas trop. Bon, donc j'arrête là-dessus. Donc je crois que ces résistances en fait sociales ont été multiformes, très diverses en fonction des mondes populaires. Et il est important, pour penser les choses qui nous intéressent là, je crois, de redonner une voix, une parole, une visibilité à ces groupes sociaux, non pas en les considérant seulement avec condescendance comme des miséreux, mais en comprenant la richesse de leurs univers culturels et sociaux. Bon, alors évidemment, parmi les autres, je vais dépasser un peu, c'est inéluctable, hein, c'est pas grave. Je dirais juste une autre forme de résistance omniprésente qui ne concerne pas les mondes ouvriers populaires, mais qui concerne l'ensemble de la société. En fait, c'est la question. Je voulais en dire un mot parce que ça me paraît très important pour ce qui nous occupe, c'est la question environnementale. Hein, l'une des conséquences, évidemment, de l'arrivée de l'industrialisme, ça a été en fait la marginalisation des questions environnementales. On croit toujours que l'environnement est une préoccupation qui naît dans les années 60-70. Donc toujours dans une vision linéaire, on deviendrait conscient. Aujourd'hui, on est conscient, avant, il ne l'était pas. Donc on est au-dessus, hein, on est au sommet de l'évolution, nous-mêmes, on est dans une société réflexive, comme on dit, consciente des enjeux, des risques. Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, il faut introduire une vision discontinue de l'évolution historique. Je dirais qu'on était très conscient avant l'industrialisme. L'industrialisme a construit une inconscience généralisée. Et aujourd'hui, on essaye de réintroduire de la complexité ou du doute. Pourquoi je dis ça? Parce que Qu'est-ce que, alors, j'ai vu qu'il y avait sur la table là-bas un bouquin qui s'appelle Paris, le laboratoire des pollutions industrielles, qui est un bouquin d'histoire qui vient de sortir récemment, et qui est très intéressant parce qu'il montre une chose qu'on ne savait pas ou qu'on n'avait pas bien compris, je crois, c'est que les sociétés pré-industrielles avaient en fait toute une série de règles limitant les nuisances environnementales. C'est-à-dire que les réglementations, alors c'est anachronique de dire ça, mais les réglementations environnementales, c'est-à-dire le privilège donné à la protection de la santé de la population et à la défense de la faune et de la flore sur les intérêts des industriels, mais dans les régulations environnementales pré-industrialistes, c'était le cas. Au XVIIIe siècle, dès qu'un atelier artisanal puait trop, polluait, risquait de contaminer les eaux, et ben on l'éjectait, on l'interdisait, on le repoussait. On le mettait à la périphérie. Ce qui s'est passé, c'est que ces considérations-là, hein, cette défense de la santé et de la protection de l'agriculture, donc de la végétation, donc de la nature, hein, a été relayée au second plan à partir du moment où l'industrialisme devient le nouveau paradigme intellectuel dominant. Alors, bon, je ne vous donne pas des exemples, mais ça me paraît très intéressant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, précisément, l'industrialisme est né, donc je terminerai là-dessus, l'industrialisme est né, et c'est là qu'il y a un lien avec le libéralisme, l'industrialisme est né avec la disparition des normes. Alors, quand alors on dit, il n'y a pas le thème sur la limite, la limitation est un discours moral. Non, je ne crois pas. Je crois que le discours sur la limite et la limitation n'est pas un discours moral, c'est un discours parfaitement politique. L'enjeu, c'est de voir qu'est-ce que ça veut dire de mettre en place, alors le mot régulation est un mot qu'on n'aime pas, qu'on veut discuter, mais mettre en place, en tout cas, des normes de fonctionnement qui incorporent ces limites dans nos fonctionnements quotidiens, nos fonctionnements sociaux quotidiens. Or, précisément, le premier 19e siècle est un moment de libéralisation, c'est-à-dire de disparition des normes, des règles, qui organisaient le marché du travail, qui organisaient le fonctionnement environnemental. Alors, ces normes, c'est quoi? C'est le triomphe du libéralisme avec la Révolution française, la disparition des corporations en France, mais la disparition des guildes et autres au cours du premier 19e siècle. Donc, l'idée, c'est pas de revenir aux corporations, mais l'idée, c'est de dire que cet industrialisme a été rendu possible par l'évacuation de toute forme de limites qui encadrait, qui organisait le fonctionnement des sociétés pré-industrielles. Donc, là aussi, on en revient à une question d'hier. L'idée, ce n'est pas de revenir à ces modes de fonctionnement antérieurs à l'industrialisation. L'enjeu, c'est de voir que ces modes, c'est-à-dire qu'il peut exister, il a existé, des modes de régulation, des modes d'encastrement, des formes de domestication de l'industrialisme. Et l'enjeu, c'est bien d'essayer de penser aussi cette question. Pour sortir de l'industrialisme, il y a deux manières de faire. Soit on dit qu'il faut sortir de l'économie, donc il faut nier le fait même que l'économie soit aujourd'hui devenue l'élément dominant dans le fonctionnement de la vie sociale. Et puis l'autre solution, c'est de dire qu'est-ce que ça serait des modes de relations sociales et aussi économiques, parce que l'économie n'est qu'une des modalités du social, en fait, qui seraient davantage encastrés et donc qui aboutiraient au dépassement de l'industrialisme. Parce qu'à partir du moment où cette idéologie, cette croyance disparaît, évidemment, ça laisse la possibilité de réimaginer toute une série de formes d'organisation. Donc, j'étais un peu embrouillé à la fin, mais je m'arrêterai là. Juste un mot, en fait, j'ai oublié, je voulais parler des canuts. Je voulais parler des canuts, j'ai oublié de parler des canuts.
C'est ça. Oh, bah alors à Lyon,
enfin. Oui, non, mais j'avais prévu d'en parler exprès. Parce qu'on célèbre le bicentenaire des Ludites, mais on célèbre aussi la révolte des canuts qui a commencé en novembre 1831. Alors, juste un petit mot sur les canuts, on pourra en reparler. Mais les canuts étaient-ils anti-industrialistes? C'est la question qu'on pourrait se poser. Mais totalement. Les canuts n'ont pas brisé les machines. Des fois, on voit ça dans les bouquins. Les canuts n'ont pas brisé les machines puisqu'ils avaient des machines appropriées. Le métier à tisser des canuts était une machine qui était le résultat d'une très longue évolution et d'adaptation locale. C'est-à-dire qu'on a le métier à tisser n'a jamais été inventé par quelqu'un. Jacquard n'a jamais existé. Enfin, Jacquard a existé, mais c'est un mythe. C'est-à-dire que le métier Jacquard, et on dit parfois que Jacquard aurait été jeté dans la Saône par des ouvriers mécontents. En fait, Jacquard a été mis en procès par le tribunal des prud'hommes parce que sa machine ne marchait pas. Et donc, ce qui change tout. Mais on a inventé le mythe de Jacquard attaqué par les ouvriers obscurantistes et qui ne comprenaient pas le sens de l'histoire, justement au début des années 30, après la révolte des canuts, pour expliquer, regardez comme ces canuts sont stupides. Les canuts s'étaient révoltés en 1831 sur la question des tarifs, c'est-à-dire la mise en place de normes permettant de définir un mode d'organisation démocratique de la fabrique lyonnaise. Alors que les marchands essayaient de prendre de plus en plus de pouvoir pour transformer les artisans canuts en espèces de prolétaires totalement dépendants des circuits marchands. Or, les canuts voulaient maintenir un contrôle sur l'organisation et sur leur production. Et c'était ça, en fait, le fond du conflit. D'ailleurs, l'exemple des canuts est très intéressant, parce que c'est l'un des premiers, enfin, c'est pas le premier, mais c'est un cas très archétypal de délocalisation. C'est-à-dire que l'une des conséquences de la révolte des canuts, ça a été ce qu'on appelle la ruralisation de la soirée lyonnaise. C'est-à-dire l'installation des métiers à tisser dans les campagnes, autour, parce que avec l'idée que les paysans, pour détruire précisément ce mode d'organisation démocratique, que les canuts essayaient d'installer à Lyon dans le premier tiers du 19e siècle. Voilà.
Je voulais, puisqu'on est en train de lister un peu les différentes étapes de l'industrialisme, je voulais vous questionner sur deux étapes et de leur pertinence. La première, c'est au moment où les machines se sont mis à fabriquer des machines. Et la deuxième, c'est le salariat.
Et quoi, le
salariat.
Ben oui, c'est deux moments forts, mais qui recoupent en fait les moments qu'on a évoqués. Puisque le salariat, c'est la réponse des capitalistes, pour aller vite, des capitalistes industrialistes, à cette question de la résistance de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que le salariat, c'est une manière justement de faire en sorte que. Par exemple, dans les premières grandes usines, on n'avait pas vraiment des salariés en fait. C'est-à-dire que les ouvriers étaient payés à la tâche et rémunéraient eux-mêmes leurs aides, qui pouvaient être leurs enfants ou leurs amis, etc. C'est-à-dire dans l'usine, il faut imaginer, il pouvait y avoir une grande usine avec 200 ouvriers avec leur métier, mais en fait, ils étaient payés en fonction de la production réalisée, et eux-mêmes, sur la base de ce qu'ils touchaient, ils rétribuaient leurs aides comme ils l'entendaient. Voilà, donc c'était un logique. Alors, le salariat va s'inventer très progressivement, selon des logiques complexes, mais c'est un moment important, je crois, dans cette imposition de l'industrialisme. C'est-à-dire que le salariat a été une manière de domestiquer une main-d'œuvre récalcitrante à l'égard de l'imaginaire industrialiste. Donc, parmi d'autres outils, il y a eu la généralisation du salariat. Pardon ?
Ça n'a pas eu que cet effet.
Ah non, bien sûr, ça n'a pas eu que cet effet, mais on en parle sur. Sur les machines.
L'industrialisme, c'est sorti du salariat.
Ben, c'est-à-dire que sur la poule et l'œuf, on ne sait jamais quel est le premier. L'industrialisme, non mais limitons l'industrialisme à une sorte d'idéologie qui est née après coup pour justifier et donner un imaginaire politique et social à des pratiques qui existaient. Donc c'est ça. Bon, alors sur les machines qui produisent des machines, oui, c'est majeur. Enfin c'est. Alors. Mais ça va nous, on ne va pas rentrer dans une histoire un peu technique de l'histoire de l'industrialisation, mais il y a des étapes. Il y a des étapes, en effet. C'est-à-dire que les premières phases de l'industrialisme, les machines sont produites par des artisans, des petits forgerons de village. C'est du bricolage quoi, qui se met en place. À partir du moment où l'industrie des machines d'outils va se généraliser dans la deuxième moitié du XIXe siècle, parallèlement à l'invention du contremaître, de l'ingénieur, une nouvelle forme de hiérarchie, parallèlement aussi à l'invention, qui est très importante, de normes de fabrication. C'est-à-dire qu'on va avoir une normalisation des procédés de production qui vont aboutir à la disparition de ce qui relève de savoir-faire. Il y a quand même une grande lutte au XIXe siècle qui va à la victoire industrialiste, c'est la lutte entre des savoir-faire individuels, difficilement systématisés, et l'apparition de savoir-faire normalisés. Et donc les ingénieurs vont être chargés d'être les représentants de ces savoir-faire normalisés. Mais ça, c'est une lutte très importante. Moi, j'avais travaillé, hein, je ne vous ennuie pas avec ça plus longtemps, mais j'avais travaillé sur les boulangers. C'est très intéressant, la résistance des boulangers à l'industrialisme. Quelle forme prend l'industrialisme dans la boulangerie? C'est l'invention des pétrins mécaniques, des pétrisseuses mécaniques, qui a été le grand bouleversement de. Or, en fait, entre les premières pétrisseuses mécaniques qui sont inventées dans les années 1820, en fait dès 1798, mais dans les années 1820, il y a eu 200 pétrisseurs mécaniques qui ont été mis au point au XIXe siècle. L'utilisation des pétrisseurs mécaniques dans les boulangeries, c'est l'entre-deux-guerres. Donc il y a eu plus d'un siècle entre l'invention de l'outil et sa généralisation, qui est en fait extrêmement liée à la Première Guerre mondiale. C'est parce qu'il y a eu une famine de main-d'œuvre gigantesque, et donc les pouvoirs publics, etc., ont profité pour vendre les pétrins mécaniques, parce qu'on n'avait plus de pétrisseurs pour faire le travail, donc c'était l'occasion. Donc il y a aussi la pénurie de main-d'œuvre est un moment de mécanisation idéal. Ça, à cet égard, les guerres sont des moments intéressants. Et bon, tout ça pour dire que pendant tout un siècle, les boulangers ne voulaient pas des pétrisseurs mécaniques, parce que ça reposait sur un savoir concret et sur une théorisation de ce qu'est le pain, qui en fait a été stigmatisé par les chimistes et les ingénieurs, en disant que le pain devait être un produit fait de façon rationnelle, scientifique, alors que les pétrisseurs disaient quoi, enfin les boulangers disaient quoi, que pour faire du pain, il faut que le corps participe à la production, parce que c'est la sueur qui coule des bras, qui participe à la fermentation chimique du pain, et sans la sueur du boulanger, il ne peut pas y avoir de bon pain. Et ça a été une lutte, mais vous n'avez pas idée, il y a même des savants qui étaient d'accord avec les boulangers. Le grand savant anti-industrialiste Raspail, le médecin des pauvres Raspail, avait expliqué que les boulangers avaient raison et que les ingénieurs qui voulaient mécaniser le travail du pétrisseur, du boulanger, prenaient de gros risques parce qu'on allait aboutir à un pain exécrable. Bon, il y a un débat, c'est un micro-exemple, mais qui me paraît assez intéressant.
Je voudrais juste ajouter un mot, c'est que, en fait, ce qu'il décrit là, nous sommes tous. Il y a des invariants aussi hein, dans l'histoire. Nous sommes dans la même situation. C'est l'Europe qui nous normalise actuellement et qui élimine toutes les petites productions locales de fromage, par exemple. Hein. Nous sommes toujours dans cette même tendance à, par la norme, éliminer tous ceux qui ne sont pas dans le système. Et au nom, bien sûr, toujours d'une morale de l'hygiène, par exemple, de l'efficacité, etc.
C'est le grand argument, c'était l'hygiénisme. C'est-à-dire que la sueur est devenue dégoûtante, alors qu'elle ne l'était pas.